OK, si vous voulez vous lever, on va lire Apocalypse au chapitre 19, les versets 7 à 10. Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 10. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, c'est la justice des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, et je tombai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alors, je vais vous asseoir. Vu que ça fait un petit bout de temps qu'on a fait, là, je pense que la dernière fois qu'on l'a fait, c'était le 22 août. Donc, on va essayer de reprendre un petit peu. On va terminer aujourd'hui. J'ai commencé déjà à étudier à partir du verset 11 jusqu'au verset 21, c'est un passage magnifique. J'ai hâte de le prêcher parce que c'est un passage où Dieu nous montre son intervention dans les choses humaines, où il va précipiter le faux prophète et la bête dans le lac de feu. Et on voit qu'éventuellement, le Seigneur va agir. Alors, cette semaine, je vous recommande de prier pour... Que Dieu bénisse nos études qu'on fait sur l'Apocalypse. Tu sais, faut pas oublier qu'on l'avait dit dès le départ, dès le chapitre 1, le Seigneur, il dit qu'il bénit ceux qui lisent et qui gardent ce qui est écrit dans ce livre. Il y a une bénédiction qui est promise, qui est rattachée à l'étude de l'Apocalypse. Et si on le fait, puis on prie, puis on demande au Seigneur de nous ouvrir l'esprit à la compréhension du livre de l'Apocalypse, je ne prétends pas que du jour au lendemain, on va devenir des spécialistes et qu'on va être capable de répondre à toutes les questions qu'il y a dans ce livre. Parce que c'est un livre difficile. Mais d'un autre côté, c'est pas en passant par-dessus et c'est pas non plus en disant « Ah, oh, le livre est tellement rempli de mystères que moi, je ne le lis pas, je comprends rien là-dedans. » C'est pas le même qu'il faut agir. Il faut lire attentivement, avec méditation et prier. On a parlé tantôt de l'importance de la prière. L'importance de la prière dans la prédication est extrêmement importante. Plus une église va prier pour son prédicateur, plus les prédications vont être de qualité. Puis plus les auditeurs dans une salle qui écoutent la parole de Dieu vont avoir prié pour que le Seigneur leur donne une bonne compréhension de ce qu'ils vont recevoir, plus ils vont être aussi bénis. On oublie souvent ça. Hein. Moi, j'ai remarqué qu'avec les années, quand on est dans la vie chrétienne depuis bien des années, on dirait qu'on devient un petit peu comme fonctionnaire, tu sais, on suit le courant, on perd cette... Tu sais, le Seigneur, il l'a dit dans l'Apocalypse, vous avez perdu votre premier amour. Le premier amour, souvent on voit ça des jeunes chrétiens, là, sont tout feu, tout flamme. Des fois, nous autres, ça fait 35-40 ans qu'on est sauvés. On devrait être encore tout feu, tout flamme. Il n'y a rien pour faire... Si la flamme s'est éteinte, là, c'est pas la faute du Seigneur. C'est pas la faute des Écritures qui ont perdu de leur beauté, de leur richesse et de leur profondeur. C'est notre faute à nous. Pas assez de prière, on met pas assez de temps en parole, donc à quelque part, on récolte ce qu'on sème. C'est un vieux principe, puis il est toujours vrai. Puis il demeurera toujours vrai aussi. Donc, aujourd'hui, je rappelle que le message que j'avais donné à ce passage-là, c'est à « Réjouissons-nous pour les glorieuses noces de l'agneau ». Alors, on avait vu que souvent, les Écritures vont utiliser l'image du mariage. Dieu va parler du mariage avec Israël, dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament utilise aussi les images pour parler que l'épouse de Jésus-Christ, c'est l'Église, c'est nous, c'est les croyants. Alors, quelque part, c'est important de réaliser que l'image de l'époux et de l'épouse, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, sont très utilisés. Dans l'introduction de la première leçon, on avait vu que des observations pour nous montrer que les noces de l'agneau sont les plus grandes de toutes les noces qu'il y a eu, qui vont avoir lieu aussi. Quand on regarde, je ne sais pas si vous avez déjà vu des images de noces, par exemple, des royautés, ou bien non, des hommes extrêmement riches, c'est fou le luxe qu'il y a dedans. C'est quasiment même péché, tellement qu'il y a du luxe là-dedans. Il y a de la beauté, des fleurs. C'est... Mais quand on regarde les noces de l'agneau, ça va être les plus grandes et les plus glorieuses qu'il y a jamais eues. Et on avait donné les principales raisons. Les noces de l'agneau seront toujours les plus grandes de toutes et absolument uniques. Premièrement, il n'y a jamais eu un époux avec une valeur comme celle de Christ. Qu'on prenne n'importe quelle noce qu'il y a eu dans le passé, que ce soit chez les riches, que ce soit partout, n'importe où. Souvent, ça peut être des hommes de très haute qualité, puis souvent, la royauté, c'est pas toujours nécessairement de qualité morale qu'on pourrait dire. Mais ici, on parle de l'époux qui est d'une qualité morale qui est absolument unique. On parle de Christ. Plus on étudie la Bible, plus on devient conscient de tout ce qu'on dit sur Jésus-Christ. Des fois, quand tu t'arrêtes, là, puis tu penses à qui est Christ. Dieu, lui-même. Dieu, la deuxième personne de la Trinité. C'est, on peut-tu avoir un époux plus glorieux que ça? Non, impossible. Deuxième raison, il n'y a jamais eu un roi de la terre ou une personne humaine qui est allé aussi loin dans l'humiliation, dans la souffrance, dans le sacrifice et dans ses accomplissements pour conquérir et mériter l'amour de sa bien-aimée. L'amour de la bien-aimée, quand on parle de l'humiliation, un Dieu qui s'humilie pour ressembler à un homme, c'est pas une humiliation ordinaire. L'humiliation de Christ, il y aurait des leçons et des leçons, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus que Christ s'est humilié. Il a souffert aussi. La souffrance qu'il a eue sur la terre en étant mal jugé par les gens de la terre, même par ses propres apôtres. La souffrance a été énorme, puis la souffrance qu'il a eue sur la croix, celle-là est inimaginable parce que Dieu le Père a déversé sur lui sa colère. La colère que nous aurions dû recevoir, c'est Christ qui l'a pris. Alors, jamais une personne n'aura autant souffert pour conquérir la bien-aimée. Jamais, jamais, jamais. C'est impossible. La troisième raison, c'est qu'il n'y a jamais eu un fiancé avec un père aussi riche et qui a lui-même planifié une cérémonie et un banquet d'un tel faste et éclat. Pensez-vous que les noces qu'on peut trouver sur la terre, de quelque royauté que ce soit, de quelque homme riche que ce soit, il peut y avoir quelque chose de comparable avec les noces de l'agneau? Absolument impossible. Ça aussi, c'est aussi riche, planifié. Les noces de l'agneau, ça va être extraordinaire. Quatrième chose, il n'y a jamais eu un engagement aussi puissant et solide que le don du Saint-Esprit donné à l'épouse. Et souvent, on parle du don du Saint-Esprit comme étant un avant-paiement, tu sais, de ce qu'on va recevoir dans le ciel. Il nous a donné le sceau. On est scellé par le Saint-Esprit. C'est un cadeau d'une richesse incroyable. Cinquièmement, il n'y a jamais eu une résidence aussi glorieuse préparée comme demeure où l'époux amènera l'épouse pour y vivre éternellement. L'être humain est riche, il va emmener sa femme dans un château. Là, nous autres, il va nous emmener au ciel pour l'éternité. Ça n'a rien de comparable, ça ne peut même pas se comparer. Sixièmement, il n'y a jamais eu une réjouissance aussi grandiose. Elle sera transportée d'une joie extrême, durable et exubérante. Et dernière, il n'y a jamais eu une noce où les saints anges seront les témoins directs. Tellement, parce que je lis ça, là, Puis ça me fait penser à la leçon qu'on donnait dans le chapitre, pas dans le chapitre suivant, mais dans le passage suivant, où il fait la comparaison des noces de l'agneau où tout n'est que beauté, joie, extraordinaire. Et après ça, quand on va arriver dans le chapitre, dans le verset 11 jusqu'au verset 21, là, il parle du repas du Dieu Tout-Puissant. Et on va voir que les rois de la terre, les militaires... Alors, les deux passages, si on les met en parallèle, on voit ce que le noce de l'agneau donne comme portrait, et on voit aussi la punition des méchants, comment Dieu va les humilier par le tu sais, quand on parle qu'ils vont être tués et jetés dans le lac de feu, vieux, hein? Il y a quelque chose d'extraordinaire de voir la différence entre ceux qui ont reçu la grâce et ceux qui ne l'ont pas reçue. Alors, le verset 7 commence bien en nous disant « Réjouissons-nous et faisons éclater notre joie. » Le mot, c'est fort quand on dit qu'on éclate de joie. C'est pas comme quand on a une petite joie passagère. Hein. Éclater de joie, c'est comme quelque chose d'intérieur qui ne peut plus se contenir, qu'il faut qu'il sorte. Alors, faisons éclater notre joie. Donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse séparée. Nous autres, autrement dit, on est l'épouse de Jésus-Christ. Comment on s'est paré? On a vu un petit peu ce matin par la justification. Premièrement, Dieu nous déclare juste sur la base que son Fils a accompli à la croix, a subi les punitions qu'on aurait dû subir à notre place, et aussi sur la base que Christ a obéi parfaitement à la loi durant toute sa vie, sans avoir manqué une seule fois, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission. Et c'est ça, la justification. Quand on dit son épouse séparée, c'est qu'aux yeux de Dieu, on est comme si on n'avait jamais fait un péché de nos vies. Quand je m'examine un petit peu, là, mon passé, il y a des bouts, je les compterais même pas en public. Puis peut-être dans la vôtre, David aussi. Alors, si on ne les comptera pas en public, c'est parce qu'on a honte. On a honte de nos péchés, on a honte des choses. Et là, Dieu nous dit qu'officiellement, dans Romains, il nous dit qu'il nous a déclaré juste. C'est une déclaration, une justice de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous déclare juste. Mais il ne peut pas nous déclarer juste sur la base, sur aucune base. Il faut comprendre la base. La base, c'est Jésus, c'est le Christ qui est venu sur la terre, à la fois pour recevoir la punition de ses élus à leur place, et à la fois pour accomplir la parfaite obéissance que Dieu exigeait pour qu'on vive en sa présence. Extraordinaire. On s'est paré. Alors l'épouse est prête à se présenter devant l'époux, qui est Jésus, qui est le roi de la terre, qui est la deuxième personne de la Trinité. On est paré, pas nécessairement parce qu'on a fait des bons gestes, puis Dieu a pris une balance, puis a vérifié ce que tu as fait de bon, puis ce que tu as fait de pas bon, puis dit « Ah, lui est bon, on va le laisser passer. » Tout est centré sur Jésus, sur Jésus-Christ. Très important de réaliser ça, parce que si on ne réalise pas ça, on est encore dans le salut par les œuvres. Alors, on avait vu, on ne reprendra pas tout le passage au complet, mais je veux juste, qu'est-ce qui est en gras, ceux qui ont les notes, là. Donc, on avait vu que les noces de l'agneau sont comparées à l'amour de Dieu pour son peuple. Quand quelqu'un se met à étudier comment se passait un mariage juif à l'époque, il y a plusieurs choses qu'il voit. Il y avait des étapes qu'on appelle les fiançailles. Les fiançailles de l'époque, ça n'avait rien à voir avec les fiançailles de nos jours. Fiançailles de nos jours, bien souvent, la fille a couché avec 3-4 gars avant, puis des fois plus. À cette époque-là, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Une fiançaille, c'était un engagement aussi solennel que le mariage. Quand tu t'étais fiancé, la preuve, quand on lit, par exemple, l'histoire de Joseph dans le Nouveau Testament, avec Marie, il était comme marié. Parce qu'une fiançaille, à cette époque-là, représentait... Alors, ici, on veut comparer les fiançailles comme ça a eu lieu comme dans l'éternité. Dieu, le Père, a choisi l'épouse, autrement dit l'ensemble de tous les élus qui viendraient, qui a placé en Jésus-Christ, puis qu'eux ont tous reçu ce que Dieu avait prévu pour eux dans l'éternité, donc c'était la fiançaille. Après ça, il y avait une procession, il y avait une fête des noces, et il y avait aussi une dot. C'est intéressant quand on lit à la page 3, l'Église est fiancée à Christ. De plus, Christ a payé pour elle la dot. Il a racheté sa fiancée. Alors, on vit dans le moment de l'intervalle où il est venu, mais on parle du moment où il va avoir la fête de la noce. Parce que ça dit, elle aura lieu, les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Alors, en Christ, l'épouse a été choisie de toute éternité. Et déjà, ça nous dit « Heureux ceux qui sont irrésistiblement appelés aux noces de l'agneau. » C'est intéressant, ceux qui ont les notes, vous relirez tout cela. Il y aurait aussi fort probablement une étude qu'on pourrait faire pour comparer toutes les étapes qu'il y avait dans une noce à l'époque et comparer ça avec l'évolution de notre salut. En Christ, à partir de l'éternité, à la première venue de Jésus-Christ, à la deuxième venue de Jésus-Christ, il y aurait une super de belle étude à faire pour montrer le parallèle. Et on avait vu aussi que, comparé à l'implication de la Trinité dans le salut, il y a plein de versets qui nous disent que quand il est question du salut, on ne peut pas dire juste Dieu le Fils, on ne peut pas dire juste Dieu le Père, on ne peut pas dire juste Dieu le Saint-Esprit. C'est les trois simultanément, avec chacun un rôle différent. On avait vu quelques versets, Éphésiens 1, versets 3 à 7. « Béni soit Dieu, le Père! » Alors ici, on ne reprendra pas tous les versets, mais juste pour montrer, puis comme dans le Fils, Éphésiens, chapitre 5, versets 25 à 27. « Marie, aimez vos femmes, comme aussi Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole. » Et aussi le Saint-Esprit, en Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14. « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile de votre salut et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Quelle doctrine extraordinaire! Moi, ça c'est... Il faut vraiment comprendre ça, parce que si on pense que Dieu nous a donné le salut, mais qu'en chemin on peut le perdre, c'est une fausse doctrine. Ça, moi j'affirme ça avec aucune hésitation. C'est une fausse doctrine. La question est, c'est que si... tu as été scellé, tu vas te rendre au pas. Si tu n'as pas été scellé et que ça a été juste une croyance de ta part, mais que ta vie n'a pas démontré l'authenticité de ta foi, peut-être que ta foi est fausse, tout simplement. Mais quand tu as reçu la véritable foi, la Bible nous dit que on lit l'Éphésiens chapitre 1, verset 13 et 14. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Un sceau, là, c'est quelque chose qui vient démontrer l'authenticité pleine et absolue. On a été scellés par le Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis la louange de sa gloire. Comparé aussi à la profondeur et à la durée de l'amour envers nous, on avait vu 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Pensez-vous qu'aujourd'hui, qu'on pourrait être des personnes qui pourraient dire, parler du bien de Jésus-Christ? Promenez-vous dans les rues, là, écoutez la télévision, écoutez la radio, voir si les gens parlent de l'amour de Christ. Personne ne parle de l'amour de Christ, puis même quand on lui en parle, on dirait que ça provoque une poussée de boutons, comme on va dire. Les gens ne veulent rien savoir. Mais on ne peut pas aimer Christ si Christ ne nous a pas aimés en premier. C'est ça que le verset dit. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. On a reçu la grâce, et par la grâce, Dieu nous a allumé l'âme pour qu'on comprenne qu'on était perdu, et que sans lui, sans Jésus le Christ, on était perdu, on s'en allait en enfer pour l'éternité. Alors on l'aime pour des super de bonnes raisons. Je pense qu'il faudra recommencer à prêcher sur l'enfer. Parce que on a, puis même aujourd'hui, ils ont fait des gorges chaudes en parlant de l'enfer aux gens.
Tu crois encore au Père Noël, toi,
tes histoires de l'ancien temps. Mais pourtant, je me souviens, je discutais à Québec avec des gens quand on faisait de l'évangélisation dans la rue. Les gens disaient, voyons donc, l'enfer, ça n'existe pas. Mais tu as fait une liste de tous les versets où Jésus lui-même, dans les évangiles, parle de l'enfer. J'en avais une liste, puis quand les gens me disaient ça, je disais, ah, OK, t'emmènes ta liste avec toi. Ça te tenterait-tu de lire ça, ce verset-là? Puis il donne la Bible. Puis là, il y a lit, puis là, je posais la question, toi, es-tu en train de me dire que Jésus est un menteur? Il n'y en a pas pogné un qui me l'a dit. Oui. Dès qu'ils sont confrontés avec ça, ah, Jésus a dit ça. Là, ils n'osent pas dire que Jésus est menteur, mais ils vont continuer à nier que l'enfer existe. Chercher l'erreur. À quelque part, écoute, ou tu crois Jésus-Christ, ou tu crois ton désir, tu aimerais ça que ça n'existe pas. Mais elle existe. Comme je me souviens, des fois, je discutais avec des gens, je disais le verset, « Tout genou fléchira devant lui. » Jamais fléchir. Je te jure que tu vas fléchir le genou. La Bible dit tout genou, compris le tien. Fait qu'imaginez-vous, un jour, on verrait le bonhomme en train de fléchir le genou. Même dans le jugement contre son péché, et quand Dieu va donner leur destination finale, eux-mêmes vont reconnaître que c'est correct. C'est fort, là. Romains 8, 35 à 39, je vais le relire le passage, parce que c'est un passage qu'on a besoin de se le répéter, de le réentendre. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce l'affliction, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, nous sommes livrés à la mort tous les jours à cause de toi, et nous sommes regardés comme des brebis destinées à la tuerie. Au contraire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous supposons qu'on arriverait à une période là, qu'on dirait, on nous persécuterait à mort. Là. On serait encore plus que vainqueurs. Ils ne peuvent pas nous enlever ce qu'on a. On a la vie éternelle. Tout ce qu'on pourra perdre, c'est la vie physique. On est vainqueur, on est sûr de notre destinée éternelle à cause de Jésus-Christ. Très intéressant de se souvenir de ça parce que aujourd'hui on regarde les moyens que le malin utilise pour chercher à faire perdre la foi aux gens, que les gens s'éloignent de tout ce qui s'appelle religion ou Jésus-Christ. C'est extraordinaire les moyens qui sont utilisés. Dieu dit qu'il n'y a rien, même les démons, quand il parle des puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune... Il n'y a rien. Ni les anges, rien. C'est pas compliqué. Donc, versets 8 et 9. « Et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. » Alors l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au banquet des noces de l'agneau. » Et il me dit aussi, « Ce sont là les véritables paroles de Dieu. » Donc, on parle ici de ceux qui sont revêtus de justice divine, Dans les notes, je mentionne que les auteurs, certains voient dans ce qu'on dit les justices des saints, certains voient une allusion à la justification, d'autres voient une allusion à la sanctification. Moi, je pense que c'est les deux, pour montrer que oui, Dieu te pardonne tes péchés sur la base de Jésus-Christ, mais en même temps, il ne laisse pas ses saints dans le péché. Il va te corriger. Si une personne se prétend croyant et que tu ne vois aucun signe dans sa vie d'un changement radical, il y a des fortes chances que ce soit une fausse foi. Et une fausse foi, ce n'est pas la foi du tout, là. C'est la foi authentique ou du tout. Alors aussi, on voit aussi une chose très importante qu'on avait mis, Romains 11, 29. Ceux qui sont appelés. Ça dit, car les dons et la vocation de Dieu. Ici, vocation, ça peut être un mot qui peut porter à confusion. Parce que si tu regardes dans l'original, tu pourrais marquer appel. Les dons, si Dieu t'a donné le salut, si Dieu t'a appelé par son Saint-Esprit, ça dit que ces choses-là sont irrévocables. Un peu comme quand vous signez un contrat d'assurance vie, et puis si vous mettez votre époux, puis si vous le mettez irrévocable, vous ne pouvez plus changer. Même si après tu feras venir l'agent, « Ah ben là, je me suis séparé avec mon mari, je ne veux plus que ça soit lui, que ce soit... » Non, c'est fini. Après que c'est signé un contrat irrévocable, tu ne peux plus revenir. Alors, il est en train de nous dire ici que la grâce que Dieu nous fait, le don qu'il nous fait, et l'appel qu'il fait, l'appel du Saint-Esprit, tu sais, le fameux, quand on dit tulip, là, « Irresistible grace », sa grâce irrésistible. Et je vous avais mis la semaine dernière les références à la fameuse chaîne d'or, le Golden Chain of Salvation. Ça, c'est important à saisir ça, parce que si vous comprenez bien cela, vous comprenez le salut dans toutes ses dimensions. À partir du choix divin dans l'éternité, l'élection, aller jusqu'à la glorification. Et la chose la plus importante à saisir quand vous étudiez des passages semblables, c'est de voir que les verbes sont au passé. Il est en train de dire, on le relit, 29 à 30, « Car ceux qui l'ont connu d'avance. » Donc, ça veut dire que Dieu a connu les siens d'avance. Il les a choisis lui-même personnellement. La doctrine de l'élection, ça en défrise énormément de monde. Ça défrise très sérieusement, comme on dit. J'en ai connu du monde qui sont venus à l'église. En même temps, j'étais à Rouen quand ils ont... Moi, même comme j'étais un nouveau, là, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Là. Je le disais, puis des fois, la semaine suivante, ils m'appelaient, je disais, genre, je ne retourne plus, parce que qu'est-ce que tu as dit là, sur l'élection, moi, je ne crée pas à ça. Ça ne change absolument rien que tu y crois, que tu n'y crois pas. Ça change tout en lisant la parole. Si tu crois ce que Dieu dit et qu'il dit toujours la vérité, si Dieu dit qu'il nous choisit un nombre précis qui ne peut pas être changé pour recevoir le salut éventuellement dans l'espace et dans le temps. Alors, depuis le début, là, dans l'éternité, il avait choisi qui au Québec, qui au Canada, qui dans quelle famille. Chez nous, on était quatre enfants, je suis le seul à sauver. Donc, il avait choisi moi. Pourquoi? Je sortais de ma bouche parce que je suis plus fin que mon frère ou plus fin que ma sœur. Non. Dieu ne nous dit pas pourquoi. Il nous choisit et c'est sur une base de sa grâce souveraine. Il dit, ceux qu'il a connus d'avance, donc il nous a connus quand? Dans l'éternité. Il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Amené jusque-là, nous, on pourrait dire, « Ouais, moi, je suis rendu là, il m'a justifié. » Mais plus que ça, il est en train de te dire, « Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ça fait que quand tu es choisi par Dieu de toute éternité, si tu es un véritable appel de Dieu, une véritable grâce souveraine que tu as reçue, tu es sûr, les Écritures te disent que tu vas te rendre au bout. Tu vas te rendre au bout. Fait que, peu importe ce que les hommes inventeront comme technique pour essayer de nous éloigner de Dieu, ils réussiront pas. Amen. Hein? Alors, aussi, l'idée qu'il il dit aussi, il me dit aussi, ce sont là les véritables paroles de Dieu. Même le mot véritable, Dieu peut-il parler sans que ça soit véritable? Mais il voulait comme mettre une insistance pour que les gens comprennent que qu'est-ce qu'il est en train de leur enseigner, c'est véritablement Dieu qui le dit. Alors, on était rendu là. Et là, on est rendu au verset 10, les noces de l'agneau qui sont concrétisées. Après que c'est arrivé, ça dit dans le verset 10, « Or, on parle de « je me jeter à ses pieds pour l'adorer ». C'est pour dire la tendance de l'être humain à adorer la créature à la place du Créateur. Il y a une confusion ici, là. Puis c'est pas la confusion de n'importe quel deux de pique, là. C'est Jean. Or, je me jetais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Lorsque le croyant examine en détail et sérieusement la personne et les œuvres de Dieu, son esprit est rapidement conduit dans une vive émotion et dans une admiration et une vénération qui éblouit et charme son âme. Il plonge alors dans un état d'émerveillement puissant et sublime. Tout son être est alors transporté par l'allégresse et la louange. L'expression de ravissement se traduit par le ploiement de tout l'être entier, ployer le genou ou se prosterner la face contre terre, du respect le plus absolu et de l'entière soumission. L'âme de la créature est fascinée et exaltée devant la beauté et les perfections infinies du Créateur sage et souverain. Souvent on reçoit le salut, on le sait, moi je suis sauvé, on oublie toute la beauté, toute la richesse, toute la... Il y a quelque chose, quand tu te mets vraiment à méditer ces choses-là et à les comprendre, tu sais, les mots sont choisis, mais vive émotion, admiration, vénération, état d'émerveillement, puissant, sublime, c'est ça que ça fait. Pas juste des mots, là. C'est des mots qui sont là pour exprimer ce qui se passe vraiment quand tu réalises pleinement ce que Dieu a fait pour toi. Le destin, ta destinée éternelle, où tu t'en vas, la valeur du cadeau que Dieu t'a fait. Et aussi, il veut nous révéler que l'adoration doit s'exprimer exclusivement à la personne même du Seigneur. Autrement dit, l'être humain, depuis qu'il existe, tout l'Ancien Testament et même le Nouveau Testament nous montre que les hommes ont toujours tendance à adorer la créature au lieu du Créateur. Dès qu'ils sont en présence d'un ange, ils sont prêts à l'adorer parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et c'est du surnaturel, ils sont perdus. Et si Dieu prend toujours la peine de nous ramener, n'adore pas aucune forme de créature aussi élevée soit-elle. Adore Dieu lui-même. Bien sûr, Jésus-Christ étant Dieu, quelqu'un peut adorer Dieu, peut adorer Jésus, se trompe pas, peut adorer le Saint-Esprit. Alors, toutes les Saintes Écritures nous rappellent que l'adoration doit s'exprimer exclusivement à la personne même du Seigneur. Nous constatons cependant que l'homme peut facilement glisser dans la confusion et l'idolâtrie lorsque son esprit est excité par des manifestations spirituelles dont il n'a pas l'habitude. Le culte des anges a été pratiqué à toutes les époques. Et si vous regardez un petit peu les rayons, allez vous promener dans une librairie aujourd'hui, le rayon des anges, vous allez voir que de plus en plus, c'est une idée qu'on cherche à vous vendre, que t'as un ange, tu peux y parler, il va te conduire, puis etc., etc. Rien de plus dangereux. Alors, dans Romains, chapitre 1, verset 18 à 25, ça dit « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. De sorte qu'ils sont inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. C'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Et le dernier petit paragraphe, c'est concrétisé, les noces de l'année sont concrétisées par l'adoration christocentrique. C'est vraiment la personne de Jésus qui devient le centre de l'adoration. Alors, quand on parle du témoignage de Jésus, c'est la substance et la totalité de toute prophétie. Quand on regarde les Écritures dans son ensemble, qu'on étudie la prophétie en particulier, on se rend compte que, comme ça dit, c'est la substance et la totalité de toute prophétie. Jésus est au centre de tout ça. Le fil conducteur de toutes les Écritures, c'est Christ. Si on se trouve dans une page des Écritures ou dans un passage, dans quelques livres que ce soit, qu'on est perdu un peu, cherchons Christ. Il est toujours là. Il est toujours là en idée, en tout temps. Toute la Bible parle de Jésus, de sa personne, de ses offices de roi, de sacrificateur, de prophète. Toutes les Écritures nous parlent de sa grâce, de son obéissance parfaite, de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection et de sa gloire. Le fait que Jésus reçoive l'hommage, la louange et l'adoration confirme de façon très éloquente sa déité ou sa divinité. Colossiens 2:9, un verset extrêmement fort pour parler de la divinité de Jésus. Car en lui, en parlant de Christ, lui c'est Christ, car en lui, toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Quelque chose de... Jésus qui était sur la terre, les apôtres qui voyaient devant eux? Un homme. Mais pourtant, à l'intérieur de cet homme-là, il était l'homme-Dieu, le trait d'union, il était là. Toute la plénitude de la divinité habitait en lui. Il était vraiment à la fois homme et à la fois Dieu. Trois applications par rapport au texte qu'on vient d'étudier. Première, de toute éternité, Dieu nous a élus en Jésus-Christ. Prions pour que le Seigneur nous ouvre les yeux sur ce privilège et cette bénédiction insondable et nous donne de répondre adéquatement à cet amour infini. Oui, réjouissons-nous et faisons éclater notre joie et donnons-lui gloire. Moi, je suis à peu près certain que si Dieu permettait, là, dans un coucher, qu'il nous rouvre l'esprit, là, puis il nous fait comprendre toute la richesse, toute la beauté du salut en Jésus-Christ, on tomberait littéralement sur nos faces, là, tellement c'est grand tout cela. Deuxième application, méditons sur la solidité de la chaîne d'or de la rédemption. Je vous conseille de regarder ce que je vous ai mis dans les notes là, et d'aller, si vous avez des bons commentaires sur Romains, il faut faire attention qui qu'on utilise comme commentateur. Là. Mais si vous avez un bon commentateur, il va vous expliquer ce passage-là en détail. C'est très important de saisir ça. Quand on a compris ce passage-là, là, on a compris beaucoup l'Évangile, beaucoup, beaucoup. Romains 8, versets 29 et 30. « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Quelle merveille. Troisième application, adorons individuellement et collectivement. On est ici le dimanche, ici, on fait de l'adoration collective, mais quand on arrive chez nous, on peut en faire individuel, on peut en faire en couple, on peut en faire en famille. Quand on aime Jésus, on peut l'adorer maintes et maintes reprises. Élevons nos âmes et exaltons quotidiennement notre grand et glorieux Sauveur, Jésus-Christ. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.